Europe 1. Europe 1.
Éric Roussel, bonjour.
Bonjour.
Membre de l'Institut, vous êtes le biographe de Georges Pompidou. Votre livre fait autorité depuis 1984, date de sa sortie. Il vient d'être réédité en poche chez Tempus. Et puis vous avez collaboré au dictionnaire Pompidou qui vient de paraître chez Fayard. Je le disais, la France de Georges Pompidou est devenue un objet de nostalgie, j'ai envie de dire. Elle nous paraît à la fois très moderne, à la pointe des technologies de l'époque, plus apaisée, moins divisée que la France du général de Gaulle qui avait connu la guerre d'Algérie et mai 68, ou que la France d'Emmanuel Macron. Plus riche aussi, c'était une vraie puissance industrielle, et ça, c'était vraiment à Georges Pompidou qu'on le devait. Premier ministre d'abord pendant 6 ans, puis président de la République. Vous le rappelez dans votre livre, pendant qu'il était à l'Élysée, la France a enregistré la croissance la plus forte d'Europe, 6% par an en moyenne. Aujourd'hui, on a la plus faible de la zone euro.
Oui, alors souvent on dit bon, Pompidou a eu de la chance, c'était ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire un contexte économique globalement favorable dans le monde, enfin en tout cas dans ce qu'on appelait l'Occident. Alors c'est tout à fait vrai. Seulement, ce que l'on peut constater, c'est qu'à la même époque, des pays comparables, par exemple, prenons la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, à la même époque, il me semble, plongeait dans la décadence, la crise, enfin, sans fond. La France, au contraire, vous venez de le rappeler, avait des performances qui aujourd'hui font rêver. Donc, on peut tout simplement peut-être en conclure que les choix de Georges Pompidou n'ont quand même pas été si mauvais et qu'il n'y a pas eu simplement, si vous voulez, un effet automatique, en quelque sorte. Voilà.
Une France moderne. C'est fou comme il a cette image d'homme moderne, Georges Pompidou.
Ben, c'est un personnage, si vous voulez, qui est assez qui est plein de, en réalité, de contradictions, de paradoxes, mais c'est qu'on ne peut pas résoudre. Tout cela fait la richesse du personnage et suscite l'intérêt qu'on lui porte. C'est à la fois un homme qui est assez traditionnaliste, qui est assez conservateur, qui ne le pas par certains côtés, et ça se voit par exemple dans l'essai qu'il a écrit après les événements de mai 68, qui s'appelle Le Nœud Gordien, et qui vient aussi d'ailleurs d'être réédité chez Tempus, c'est que j'ai préfacé. Et on voit là apparaître une réflexion d'un homme qui se pose vraiment en conservateur face au désordre de mai 68. Mais un conservateur qui est quand même ouvert sur la modernité, qui essaye de comprendre ce qui s'est passé en mai 68, d'en tirer les conséquences, et qui dit aussi quelque chose d'assez étonnant. La fin de ce livre est la suivante. Le fascisme n'est pas si improbable, il est même peut-être plus probable plus menaçant à terme que le communisme. Alors il faisait allusion au fait que les sociétés modernes risquaient d'être minées par l'individualisme, ce qui commençait à apparaître en mai 68, ce qui était un des ressorts de la révolte de mai 68. Et il en concluait que l'affaiblissement, si vous voulez, des disciplines collectives engendrerait une crise, et que cette crise, si elle n'était pas résolue, si vous voulez, par des procédures démocratiques, risquait de susciter l'apparition de ce qu'il appelait un homme fort et casqué. Alors c'est assez étonnant, parce que dans le monde, on voit apparaître effectivement en ce moment un certain nombre de tentations de cet ordre. Alors c'était un homme qui était à la fois conservateur, et plus conservateur à certains égards que le général, mais qui était aussi très très ouvert sur la modernité. Et c'est ça, à mon avis, aussi qui lui a permis, en mai 1968, d'avoir une appréhension correcte des événements. Pour De Gaulle, ces événements étaient, il le disait, et d'ailleurs il a dit, c'était quelque chose d'incompréhensible, enfin que des jeunes qui étaient quand même très très privilégiés, qui n'avaient pas connu de guerre, qui vivaient dans une période d'expansion, se révoltent. Il n'arrivait pas à le comprendre. Il le disait d'ailleurs à ses petits enfants. Il a dit d'ailleurs, il a eu cette phrase, la situation était insaisissable. Pompidou lui avait des antennes. et essayer de comprendre ce qui se passait. Et quelques mois auparavant, il avait été très frappé par le film de Godard, la chinoise. Il organisait assez régulièrement à Matignon des réunions amicales au cours desquelles des films étaient projetés. Et donc il y avait une projection de la chinoise. Et les amis de Pompidou avaient tous exprimé leur incompréhension de cette espèce d'objet non identifié qui était ce film. Et Pompidou avait dit il n'avait pas une explication totale du film, mais il avait dit il avait pressenti quelque chose. Il avait dit c'est sans doute la préfiguration d'un univers qu'on ne connaît pas, mais qui transparaît à travers ce film assez étonnant. Donc quand les événements de 68 sont arrivés, il a su les décrypter, il a su hiérarchiser les problèmes, et je crois que c'est ça qui a fait qu'il a eu une démarche qui était à la fois de fermeté et aussi de compréhension des ressorts de la révolte. Et je crois que c'est ce mélange d'humanisme et de fermeté qui a fait qu'il a été perçu par l'opinion comme l'homme de la situation, et ce qui lui a donné, au fond, les clés de l'Élysée un an plus tard.
On l'a longtemps vu comme un libéral, Georges Pompidou, négligent sur les questions sociales. Or, dans votre biographie, vous rappelez que selon René Raymond, sous son mandat, les améliorations apportées au sort des salariés ont été au moins aussi importantes que celles obtenues en 36 sous le Front Populaire. Ça paraît étonnant, mais c'est vrai que le SMIC a été revalorisé de 28%, la retraite minimale augmentée de 44%. On se portait pas si mal dans les classes populaires sous Georges Pompidou.
Alors là, il faut distinguer Pompidou Premier ministre et Pompidou Président de la République. Parce que dans mon livre, il y a un graphique qui m'a été donné par quelqu'un qui n'était pas un hyper-gauchiste, qui était le président du CNPF de l'époque, qui s'appelait Paul Uvelin. Et ce graphique est quand même assez éloquent. Il donne pas évidemment la clé unique de mai 68, mais il tend à expliquer, si vous voulez, pourquoi à la crise étudiante s'est superposée une crise sociale assez importante et qui a bloqué le pays. Et on voit dans ce graphique, d'une façon vraiment aveuglante, que de 1962 à 1968, il y a eu un décrochage des bas salaires, de ce qu'on peut appeler le pouvoir d'achat des smicards, quoi. Et Georges Pompidou, à partir de ce moment-là, alors ça explique cette revalorisation du SMIC de 68, qui n'a pas toujours été comprise, mais en réalité c'était un rattrapage finalement de toutes ces années durant lesquelles le pouvoir d'achat des bas salaires avait stagné. Et à partir de ce moment-là, Georges Pompidou a été très attentif à ce problème. Et durant son septennat, effectivement, il a profité de ce contexte économique favorable pour être plus attentif aux réalités sociales. Alors on a beaucoup dit qu'il était que c'était au fond que cette attention aux problèmes sociaux était ce qui le différenciait de son premier ministre qui était Jacques Chaban-Delmas. Jacques Chaban-Delmas, on le sait, avait lancé en septembre 69, sans d'ailleurs en avertir beaucoup Pompidou, un discours qui est resté dans l'histoire comme le discours de nouvelle société. Pompidou en avait été très mécontent, d'abord parce qu'il n'avait pas été averti, ce qui quand même était peu convenable, et aussi parce que il y avait une sorte de, comment dire, c'était la tonalité générale du discours qui lui déplaisait. Il disait la nouvelle société, ça n'existe pas, on ne part pas de rien, on construit quelque chose comme ça, pièce par pièce. Mais ça ne veut pas dire que ponctuellement, sur un certain nombre de problèmes très déterminés, de problèmes sociaux notamment, déterminé, ça ne veut pas dire qu'il était en désaccord avec Jacques Chaban-Delmas, et vous l'avez très bien dit, il y a eu sous sa présidence des progrès notables. D'ailleurs, il n'y a pas eu de... Je crois que, vous savez, tous les présidents qui se sont succédés après mai 68, que ça a été Pompidou ou Giscard, moi je l'ai assez bien connu, puisque j'ai écrit aussi un livre sur lui, il me disait, mais ça a été ma hantise que mai 68 ne se reproduise pas. Donc, si vous voulez, c'était... Ça explique cette attention aussi que Pompidou avait pour ses problèmes. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il était issu d'un milieu modeste. Il avait une vraie sensibilité populaire.
On fait une pause, Éric Roussel. On se retrouve tout de suite après. On continue d'évoquer Georges Pompidou.
Europe 1,
c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï.
À l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Georges Pompidou, la biographie que lui a consacrée Éric Roussel vient d'être rééditée en poche. Est paru également un dictionnaire Pompidou aux éditions Fayard. Le plus singulier dans l'itinéraire de Georges Pompidou, j'ai l'impression, c'est qu'il semble avoir été là un peu par hasard. Il n'avait pas de vocation politique jusqu'à son entrée dans le cabinet du général de Gaulle à la Libération. Et c'est par fidélité au général de Gaulle qu'il est resté auprès de lui ensuite, qu'il a quitté la bande Rothschild, où il était pourtant très heureux, pour devenir Premier ministre. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé le dauphin du général. Rien de tout cela, au fond, n'était prévu. Mais il a tout assumé, et brillamment en plus.
Oui, c'est Georges Pompidou est sans doute le seul, enfin l'un des seuls, en tout cas président de la Ve République, dont le destin n'a pas été entièrement prémédité. Alors, c'est évident jusqu'en 1945. Là, il n'a absolument aucune activité politique, si ce n'est que quand il était jeune, il était issu d'un milieu de gauche. Son père était un militant socialiste. Lui aussi a été. On a même découvert lorsque j'ai édité ses écrits inédits avec son fils Alain, il y a une douzaine d'années, que brièvement, il avait adhéré à un groupuscule qui est d'apparence trotskiste. Enfin, ça n'a pas dû durer très longtemps. Et il avait milité dans une ligue antifasciste dont le président était Pierre Mendès-France. Et j'avais vu Mendès-France deux jours avant sa mort, c'est le hasard. Et il m'avait dit, en souriant, on ne s'était pas beaucoup fréquenté à l'époque parce que moi, j'étais déjà radical et lui était un socialiste remuant. Et donc il était parti, si vous voulez, de ce point de départ, enfin de cette adhésion, enfin de caractère un peu familial. Et puis tout au long de l'entre-deux-guerres, il n'avait cessé en réalité de s'éloigner de la politique. Vraisemblablement, même si c'est pas toujours exprimé de façon claire, parce qu'il était déçu, si vous voulez, par l'évolution de la Troisième République finissante, qui n'avait rien, effectivement, de bien enthousiasmant, et puis qui aboutit, comme on sait, à ce désastre de 1940. Et puis, alors, arrive la période de la guerre, bon, on sait qu'il a pas, il est allé ni dans un sens, ni dans un autre. Il faut dire que c'était le contraire, hein, d'un homme d'aventure. Il était pas du tout fait pour ça. Ça a été vrai pendant la guerre. Ça sera vrai, par exemple, en 1958, lorsque le général de Gaulle reviendra au pouvoir, il est complètement extérieur à tous ce qu'on a appelé les 13 complots du 13 mai, etc. Voilà. Donc, la libération arrive, et là, il y a quelque chose il se produit quelque chose de vraiment d'extraordinaire, une sorte d'illumination, mais au sens un peu de Rimbaud. Il voit le général de Gaulle descendre les Champs-Élysées, et il a le pressentiment qu'enfin, il y a toute la légende qui commence à entourer le général, etc. Et au fond, on a l'impression qu'à ce moment-là, De Gaulle lui apparaît comme l'homme qu'il attendait sans pouvoir le définir, en quelque sorte. Et à ce moment-là, alors il y a eu toute une légende pendant très longtemps. On a raconté, le général cherchait un agrégé sachant écrire. Alors ça, c'est complètement c'est complètement faux. Ça n'existe pas. J'ai pu retrouver la lettre par laquelle Georges Pompidou fait acte de candidature au cabinet du général par l'intermédiaire de son ami et condisciple d'Hippocagne, René Brouillet, qui était le collaborateur du général de Gaulle. Donc il entre au cabinet du général dès la libération, enfin quelques semaines après la libération de Paris. Au début, évidemment, un poste assez modeste, et puis comme il a des qualités évidentes, il se fait remarquer d'abord par le directeur de cabinet de Gaulle, qui était le Gaston Palevski, puis par le général lui-même. Et puis il s'établit un lien de caractère assez personnel, puisqu'il va devenir le trésorier de la Fondation Van de Gaulle, du nom de la fille du général et de Madame de Gaulle, qui était trisomique. Donc c'était un poste, si vous voulez, enfin, une mission de confiance, en quelque sorte, et qui atteste les liens très très forts qu'il y avait entre eux. Mais pour autant, Pompidou, à ce moment-là, n'est pas vraiment un politique. Au fond, il joue auprès du général un rôle assez singulier, un rôle assez personnel. Et pour fixer les choses, par exemple, il est complètement à l'écart du Rassemblement du Peuple Français, c'est-à-dire ce mouvement que le général avait fondé en 1947. Et Pompidou voyait ça d'un œil assez perplexe, en pensant que c'était une entreprise qui était vouée à l'échec. En ce sens, il n'a pas vu les choses, puisque effectivement, c'est une affaire qui s'est fracassée dès 1953. Et on peut dire que, à partir de sa date, entre-temps, il est devenu conseiller d'État, il est devenu banquier, il est entré à la Banque Rothschild, dont il est devenu le directeur. Et il reste auprès du général, mais il reste vraiment par fidélité et avec l'idée que le général ne reviendra jamais au pouvoir, qu'il est à Colombey, qu'il écrit ses mémoires et que, voilà, que la 4e République va suivre son cours. Et puis, arrive mai 58. Et alors là, bon, le général commençait, revient au pouvoir, et il appelle Georges Pompidou auprès de lui en tant que directeur de cabinet. Et là, pendant la courte période qui va de juin, enfin, mai-juin 58 à la fondation de la 5e République, c'est-à-dire en janvier 1959, là, Pompidou, comme directeur de cabinet du général, va jouer un rôle fondamental. Le général, lui, est axé essentiellement sur la Constitution, sur l'élaboration de la nouvelle Constitution, sur le problème algérien, mais au fond, tout le reste est vraiment du ressort de Pompidou, et notamment les problèmes financiers, là, toute le problème de des réformes économiques, et financières, le lancement du nouveau franc, etc. Tout ça, Georges Pompidou voit ça de très près. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que, à l'issue de cette période de 6 mois, où il a joué un rôle si important, il ne fait pas partie du gouvernement de Michel Debray, que Michel Debray forme en janvier 1959. Et là, on a l'explication maintenant. Tout laissait à penser que Georges Pompidou avait fait à ce moment-là un pari, qu'il n'avait pas voulu entrer dans le gouvernement en tant que ministre, parce qu'il avait l'espoir un jour d'être nommé directement Premier ministre. Et il se trouve que l'Académie des sciences morales et politiques, dont je fais partie, a rendu un hommage à Georges Pompidou il y a un mois et demi à peu près, en présence d'Édouard Balladur. Et Jean-Claude Trichet, donc l'ancien gouverneur de la Banque de France, mon confrère, a lu une lettre de son père, était un camarade de Pompidou. Et dans une lettre que Pompidou lui a envoyée, si mes souvenirs sont bons, il y a vraiment l'aveu de cette espèce de calcul que fait Georges Pompidou à ce moment-là. Calcul d'ailleurs qui était un peu risqué, parce que rien ne garantissait que, disons, à une échéance de 2 à 3 ans, Pompidou aurait toujours le profil recherché par le général. Et on sait d'ailleurs que le général a hésité entre lui et Louis Jox, qui avait été ministre des Affaires algériennes. Finalement, Pompidou est nommé Premier ministre. Alors là, à partir de là, il est évident quand même que à partir du moment où il est Premier ministre, il est bien évident qu'il songe à la suite. Et alors c'est plus un destin, c'est quand même un destin qui est beaucoup plus maîtrisé. On peut dire même un peu calculé, c'est bien normal, hein, c'est sûr. Et avec, évidemment, tous les problèmes que ça va poser dans ses relations avec le général, qui vont notamment à partir de 1965, où les choses quand même commencent à se gripper.
On fait une pause et on continue d'évoquer la figure de Georges Pompidou. On commémore, avec un peu de retard, le 50e anniversaire de sa mort. C'était le 2 avril 1974.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Éric Roussel, on s'interroge sur la nostalgie dont Georges Pompidou est aujourd'hui l'objet. On le voit comme quelqu'un d'une grande sagesse, qui ne perd jamais son sang-froid, même pas en mai 68, qui ne cède jamais au lyrisme ou à l'emphase parfois trompeuse du général de Gaulle. Il n'y a pas de « je vous ai compris » ou de « vive le Québec libre » dans la bouche de Georges Pompidou. On dirait presque qu'il n'a jamais commis d'erreur. Est-ce que c'est le cas, vous qui connaissez sa vie et sa carrière mieux que quiconque?
Là, écoutez, c'est une question un peu délicate que vous me posez là, parce qu'évidemment que la réponse dépend de celui qui se pose la question. Parce qu'il est évident que selon au gré des opinions, on peut considérer que Pompidou a fait telle ou telle erreur. Ce que l'on peut dire, c'est que globalement, ça donne quand même une indication. Si on regarde les sondages, il a fini quand même son quinquennat, puisque c'était avec un taux de popularité d'environ, si mes souvenirs sont bons, 55%, et alors même que la maladie dont il souffrait depuis 2 ans était quand même assez visible et créait un climat qui n'était pas euphorique. Donc je crois qu'il a été perçu quand même comme quelqu'un qui n'a pas commis trop d'erreurs. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'avec le recul, on s'aperçoit qu'il y a deux sortes, à mon avis, de présidents de la 5e République. Il y a les présidents qui sont restés fidèles à leur électorat et les présidents qui les ont, disons, plus ou moins malmenés. Alors, c'est le cas de De Gaulle, puisque De Gaulle se fait réélire, revient en surfant, en quelque sorte, sur la révolte des Français d'Algérie. Et puis, vous connaissez la fin, en 1962, c'est-à-dire l'indépendance, les accusations de trahison, etc. Ensuite, il y a Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, c'est plus compliqué, parce qu'il avait quand même un petit peu... C'était quand même un peu révélé avant. Mais enfin, il fait une politique, au moins pendant les deux premières années, qui n'est pas exactement celle, avec toutes ces réformes, qui n'est pas exactement celle de son, enfin, d'une partie de son électorat. Et puis, il y a Mitterrand. Il y a Mitterrand, qui plus tard, c'est le fameux tournant de 1983, où sans le dire, il tourne complètement catac. Alors Pompidou, lui, il est le prototype des présidents qui restent fidèles, au fond, à leur électorat. C'est peut-être aussi un des ressorts de sa popularité, à une époque où on accuse justement les hommes politiques de ne pas de louvoyer, de ne pas être fidèles à leur parole. C'est une interprétation, enfin c'est peut-être une clé.
C'est aussi quelqu'un d'une intelligence exceptionnelle quand même, parce que c'est un professeur de français, latin et grec, devenu chef de cabinet du général de Gaulle, qui à 41 ans rentre à la banque Rothschild et s'initie en un clin d'œil à la finance, qui lui est pourtant totalement inconnue, hein, au point de devenir directeur général de la banque, tout en écrivant une anthologie de la poésie française et en roulant au Porsche. On a l'impression que c'est l'honnête homme du XXe siècle, hein, familier des affaires, de la politique, de l'économie, expert en poésie, en art et en voiture de sport et en langue morte. C'est pas un dilettante, Georges Pompidou. C'est une Formule 1.
Non, et puis vous avez fait allusion à toutes ces étapes de sa vie, et je pense que ce qui l'a beaucoup servi dans l'exercice de ses fonctions de président, c'est une expérience très très riche de la société française. Il a été, si on considère son parcours, bon, il a été d'abord enseignant, ensuite il est collaborateur du général de Gaulle, il a été conseiller d'État. Il a été directeur de la Banque Rothschild, premier ministre, et tout ça lui a donné, si vous voulez, quand il est arrivé à l'Élysée en 1969, il avait non seulement, il faut pas oublier qu'il avait été pendant 6 ans premier ministre, ce qui je crois est toujours le record, encore que Fillon a dû s'en approcher. Donc il avait à la fois une connaissance très grande des problèmes, parce que c'était un grand travailleur, mais il avait aussi une connaissance des hommes, parce que et des hommes dans des milieux extrêmement différents, et d'ailleurs pas forcément pour prendre un exemple précis, si vous voulez, ses amis, ses véritables amis, n'appartenaient absolument pas à la... Il n'avait aucun ami dans la classe politique, mais vraiment aucun. Le seul c'est pas vraiment un homme politique. Il a été longtemps assez proche de Malraux avant que les relations avec De Gaulle n'aient des répercussions sur leur relation, mais ça c'est autre chose. Mais en dehors de ça, il était ami de Jean d'Ormesson, il était ami de François Sagan, il y a qu'à voir d'ailleurs la correspondance que nous avons publiée en 2012 et qui vient d'ailleurs de reparaître aussi chez Tempus, pour voir qu'il est en contact avec Rebouquet, avec des gens comme ça, enfin qui n'étaient pas du tout de son bord. Mais il avait une vraie curiosité, si vous voulez, à la fois d'ordre artistique, sur le plan littéraire aussi. On voit qu'il avait un intérêt pour le nouveau roman. Bon, ça, je sais pas si ça n'a pas eu beaucoup de pérennité, à mon avis, mais enfin bon. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui avait des curiosités multiples.
Et qui aimait les avant-gardes.
C'est pour ça que le nouveau roman...
Mais de tous les présidents de la Ve République, il est, me semble-t-il, le plus naturel à la télévision. C'est fascinant à regarder 50 ans après sa mort. Quand vous voyez Georges Pompidou, que ce soit en interview, en conférence de presse, ou que ce soit, il est beaucoup plus naturel que tous ceux qui lui ont succédé.
Oui, et il avait assez vite assimilé le métier, si j'ose dire, parce que quand il arrive en 1962, en avril 1962, il n'a aucune expérience ni de la tribune de l'Assemblée nationale, ni de la télévision. Je crois qu'il n'est jamais passé dans une émission de télévision. Et il faut bien dire que ses débuts à l'Assemblée nationale avaient été assez laborieux. Il ne savait même pas où était l'escalier par lequel on monte à la tribune. Il fallait un petit peu le guider. Et ses débuts n'avaient pas été éclatants. Il y avait quelqu'un qui n'était pas du tout de son bord et qui avait deviné l'étoffe du personnage et le talent qu'il allait révéler. C'est François Mitterrand. Et François Mitterrand, lors de ses débuts, avait dit à ses amis, ne vous laissez pas abuser par cette première impression qui n'est peut-être pas éclatante. C'est quelqu'un qui a du coffre et qui va se... Et d'ailleurs, il y a eu entre eux, alors c'est une relation assez bizarre, parce qu'ils se sont jamais, pratiquement jamais rencontrés. Je crois qu'ils n'ont pas dû avoir un quart d'heure de conversation particulière ensemble. Mais on voit, moi j'avais interrogé quand, en 83, j'ai été reçu par Mitterrand, à propos de Pompidou, et il avait laissé, il avait marqué quand même une certaine considération, beaucoup de considération même pour Pompidou, même s'il était évidemment pas du tout de son bord. Alors il faut dire aussi que c'était pour l'opposer violemment à De Gaulle, qu'il détestait, et que bon. Mais il m'a parlé de Pompidou, il m'a reçu une demi-heure à peu près, il m'a parlé de pendant 10 minutes de Pompidou, et le reste, alors que je lui demandais rien, il m'a parlé de De Gaulle pour l'accabler et pour introduire une sorte de... Il établissait une sorte un parallèle entre lui et Pompidou sur la base suivante. Nous avons été tous les deux victimes des agissements des polices parallèles gaullistes, etc. Il faisait évidemment allusion à cette épouvantable affaire Markovic qui a failli...
C'est leur seul point commun, parce que François Mitterrand a fait de la politique toute sa vie. Il a été élu député à 30 ans, ministre à 30 ans. Oui. Georges Pompidou, lui, comme on le disait, est entré en politique en même temps qu'il est entré à Matignon, c'est-à-dire à 50 ans. C'est quand même un destin assez particulier. Oui. Merci en tout cas, Éric Roussel, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que votre biographie de Georges Pompidou vient d'être rééditée chez Tempus et que vous avez collaboré à l'épais dictionnaire Pompidou qui vient de paraître chez Fayard. Merci encore.
Merci.